VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, des églises appellent au report des élections législatives du 20 décembre.
Au Mali, démission d'un militaire de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, accusé d'agression contre un journaliste.
Au Niger, un acteur de la société civile, Yahaya Badamassi, a été libéré hier après 8 mois d'emprisonnement.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté l'hôpital militaire de Rabat où il poursuivait sa convalescence au Maroc.
Ici à Washington, obsèques d'État hier pour le 41e président des États-Unis, George Herbert Walker Bush.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Togo, les églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes appellent à un report des législatives prévues le 20 décembre et boycottées par les principaux partis d'opposition. Des détails avec Nani Talani.
Dans une déclaration commune, ces églises dénoncent les conditions non consensuelles dans lesquelles est organisé le scrutin et réclament un report de quelques mois qui permettrait d'approfondir le dialogue. Ces organisations dénoncent aussi l'attitude de la classe politique viscéralement obnubilée par la défense de ses intérêts politiciens qui amène légitimement à se poser des questions sur son attachement pour le peuple qu'elle aspire à diriger. En outre, elle déplore le fait que les réformes qu'exige l'opposition pour limiter les mandats présidentiels n'ont toujours pas été faites. D'autre part, les églises déplorent que la révision du fichier électoral ait été faite par la CENI sans la participation inclusive de l'ensemble de ses acteurs. Le pouvoir de Lomé s'est engagé à mettre en œuvre les réformes demandées, mais l'opposition dénonce une manipulation. Le projet de texte n'étant pas rétroactif, cela pourrait permettre au président Gnassingbé d'effectuer encore 2 mandats.
Au Mali, le colonel Abdoulaye Malakou, secrétaire général de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, a démissionné de son poste. Il est accusé d'avoir séquestré et torturé le directeur de publication de Mali Média, Amidou El-Hadj Touré, dans les locaux de la CVJR. Le colonel Malakou dément. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Tout est parti d'un article publié par notre confrère sur les malversations au sein du comité Justice, Vérité et Réconciliation. Mécontent de cet article, le secrétaire général de la commission a invité le directeur de publication de MaliMedia.com en la personne de Amidou El-Hadj Touré dans les locaux de la CVJR. Selon la version de notre confrère, une fois arrivé sur les lieux, il a été séquestré, torturé et menacé de mort par le secrétaire général de la CVJR. Face à cette situation, le colonel Makalou a démissionné de son poste, mais dans sa lettre de démission, il nie les faits et avance une cabale contre sa personne. J'ai l'honneur de vous présenter ma lettre de démission du poste de secrétaire général de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation. En effet, face à une campagne d'intoxication médiatique mensongère, d'atteinte à mon honneur et à celle de ma famille, par des individus dont j'ignore les véritables raisons, car n'ayant jamais pris le soin de me rapprocher pour vérifier la véracité des faits rapportés par un pseudo-journaliste. Fin de citation. En entendant l'éclaircissement des choses, l'affaire est entre les mains de la gendarmerie du camp 1, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, un acteur de la société civile, Yahaya Badamassi, a été libéré mercredi après 8 mois d'emprisonnement pour avoir manifesté contre le gouvernement. La justice, ayant prononcé sa relaxe en appel, a annoncé son organisation. Il était emprisonné depuis avril après une manifestation contre la loi de finances. En août, à l'issue de son procès en première instance, il avait bénéficié d'un non-lieu, mais avait été gardé en prison après appel du parquet.
L'organisation G5 Sahel espère le 1,9 milliard d'euros aujourd'hui pour des projets de développement, en particulier dans les régions frontalières où les djihadistes tirent parti des carences des États pour s'implanter. À Nouakchott, la capitale mauritanienne, siège du secrétariat du G5 Sahel, les présidents de ces pays parmi les plus pauvres du monde vont présenter 40 projets couvrant la période 2019-2021 devant des bailleurs de fonds et partenaires internationaux, dont l'Union européenne et la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a quitté l'hôpital militaire de Rabat, où il était arrivé fin novembre, et poursuit sa convalescence dans une résidence privée de la capitale marocaine. Le chef de l'État gabonais avait reçu lundi la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, son ami depuis l'enfance, et des images de cette rencontre avaient été diffusées. Il se porte plutôt bien, le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement, a indiqué mercredi le chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngonde, qui n'a pas précisé quand le chef de l'État rentrerait à Libreville. Nous reviendrons sur l'état de santé du président du Gabon en seconde partie de cette édition.
En République démocratique du Congo, le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, a tenu une réunion publique hier soir dans le centre de Beni, soit dans l'une des zones les plus dangereuses du pays en proie à une épidémie d'Ebola et à des tueries de civils attribuées aux ADF, un mystérieux groupe armé. Vendredi à Kinshasa, M. Fayulu avait promis en cas d'élection de déménager un grand camp militaire de Kinshasa à Beni pour renforcer la sécurité dans cette région.
L'ONU, l'Union africaine et la Côte d'Ivoire, présidente en exercice du Conseil de sécurité, ont plaidé hier en faveur des organisations internationales œuvrant pour la paix dans le monde, au lendemain de nouvelles critiques américaines mettant en cause leur efficacité. Ces déclarations, sans viser directement un discours critique la veille à Bruxelles du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à l'égard de l'Union européenne, de l'ONU ou de l'Union africaine, sont intervenues lors d'une session du Conseil de sécurité organisée par Abidjan sur l'après-conflit et la stabilité. Mike Pompeo a regretté mardi qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, les missions de maintien de la paix s'éternisent depuis des décennies sans être plus proches de la paix.
Le journaliste angolais Rafael Marquez, considéré comme la bête noire du régime de Luanda, a été reçu hier pour la première fois au palais présidentiel. À cette occasion, il a tenu une conversation sur la corruption avec le chef de l'État, João Lourenço. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
À sa sortie d'audience, qui a duré 45 minutes, le journaliste a salué le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. « Nous avons évidemment parlé de la corruption », a-t-il déclaré. « La corruption n'est pas seulement le fait des ministres », a indiqué Rafael Marquez, pointant du doigt la petite corruption dans laquelle tout le monde est impliqué. Il dit avoir rappelé au président les souffrances de la population, tout en lui précisant qu'il est nécessaire que les gens aient à manger pour pouvoir célébrer la démocratie. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Rafael Marquez faisait partie mardi d'une délégation de représentants de la société civile invités par le président angolais. Mais au dernier moment, un raté semble-t-il protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. C'est donc pour couper court aux critiques que João Lourenço a offert un tête-à-tête de rattrapage aux journalistes d'investigation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Donald Trump et quatre de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, dont George W. Bush, fils du défunt, ont assisté ensemble mercredi aux obsèques d'État de George H. W. Bush en présence de nombreuses autres personnalités américaines et de dignitaires étrangers. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
La Turquie a demandé hier l'arrestation de deux proches du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, et ce en lien avec le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, accentuant ainsi la pression sur le dauphin saoudien, mis en cause mardi par d'influents sénateurs américains. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, la justice turque a émis des mandats d'arrêt visant Ahmed al-Assiri et Saoud al-Kattani, accédant à la requête du procureur général d'Istanbul qui les soupçonne fortement de faire partie des planificateurs du meurtre.
Pour la première fois depuis 2016, des pourparlers de paix interyéménite s'ouvrent jeudi en Suède sur fond d'urgence humanitaire entre le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite, sunnite, et la rébellion chiite appuyée par l'Iran. Ces pourparlers organisés sous l'égide des Nations Unies constituent une rare occasion de remettre sur le chemin de la paix le Yémen, dévasté par 4 années de guerre qui ont fait au moins 10 000 morts et poussé 14 millions de personnes au bord de la famine.
La Chine a protesté avec force contre l'arrestation au Canada mercredi de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, réclamant la libération de cette citoyenne chinoise n'ayant violé aucune loi selon un communiqué de l'ambassade chinoise au Canada. Les Chinois ont annoncé avoir réclamé au Canada de corriger immédiatement cette faute et de restaurer la liberté de Madame Meng Wanzhou, qui fait face à une demande d'extradition aux États-Unis, alors que selon des informations de presse, Washington la soupçonne d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
Le Rwanda et la Russie viennent de signer un accord relatif à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Cette convention contribuera à la croissance économique du Rwanda et à l'amélioration de la qualité de vie de sa population à travers le développement de l'industrie nucléaire. L'accord prévoit entre autres la construction du Centre pour la science et la technologie nucléaire et de centrales nucléaires, l'amélioration de l'infrastructure nucléaire du Rwanda ainsi que la réglementation de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Les cours mondiaux de l'huile de palme, déjà à leur plus bas niveau depuis 3 ans, pourraient encore baisser dans les prochains mois. Les stocks mondiaux sont appelés à gonfler. Cette situation d'abondance des stocks pourrait s'aggraver en raison de la suppression à venir par l'Indonésie de la taxe à l'exportation qui vise à rendre compétitives les exportations du pays sur le marché international. La production mondiale d'huile de palme est prévue pour atteindre 70,5 millions de tonnes en 2018. Terminons avec les producteurs de cacao qui pourront percevoir un prix plus élevé pour leurs produits aux conditions du label de certification Fairtrade International, indique cette organisation. Fairtrade a en effet décidé d'augmenter de 20% son prix minimum pour le cacao, le faisant passer de 2 000 à 2 400 dollars par tonne. Quant à la prime touchée par les producteurs pour financer les projets communautaires, elle passera de 200 à 240 dollars. Ces nouveaux prix entreront en vigueur le 1er octobre 2019.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin hier du tour préliminaire en Ligue africaine des champions.
Demi-finaliste de la précédente édition, Primeiro de Agosto est déjà éliminé de l'édition 2018-2019. Après leur victoire 4-2 à domicile, les Angolais sont tombés 2-0 à l'extérieur au retour à Oyo contre les Congolais de l'AS Otoho. À défaut de briller, l'ASEC Mimosa et l'Etihad Tanger ont su faire preuve de solidité pour se qualifier. Les Ivoiriens sont allés chercher le match nul au Gabon contre Mangasport 0-0, 1-0 au match aller à Abidjan. Même score pour les Marocains de l'Etihad Tanger, vainqueurs 1-0 à l'aller et qui ont fait 0-0 au retour au Tchad contre Elect Sport.
La République démocratique du Congo a fait du 2-2 en Coupe CAF.
Et oui, les deux représentants du pays des Léopards, le DC Motoma Pembe et l'AS Nyuki, ont validé leur qualification pour le premier tour. Après son carton 4-1 à l'aller, le DCMP a assuré le match nul en Centrafrique face aux Anges de Fatima 1-1. En revanche, l'AS Nyuki a surpris son monde en renversant Alali Chendi 1-0, 3-1 au tir au but. Génération Foot s'est imposé 1-0 à Bamako pour éliminer le Djoliba après le match nul 0-0 à l'aller.
L'Égypte dit non à l'organisation de la CAN 2019.
Oui, la Fédération égyptienne de football a annoncé son rejet de l'idée d'habiter la CAN 2019 après la décision de la CAF d'écarter le Cameroun de l'organisation de cette compétition. L'Égypte a indiqué qu'elle refuse de concurrencer un autre pays arabe sans citer de nom. La CAF devrait faire un choix sur le nouveau organisateur de la CAN 2019 et les médias cite le Maroc et l'Afrique du Sud pour l'instant, le royaume chérifien qui a renouvelé ses infrastructures sportives en prévision de sa candidature pour la 7e fois à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 ne s'est pas proposé officiellement pour abriter la compétition.
Le comité américain de gymnastique déclare faillite.
L'avocat John Manley, représentant de 180 victimes présumées d'abus sexuels, a déclaré l'incapacité de cet organisme à protéger les athlètes contre ces abus. Selon la chaîne NBC News, l'organisation fait face à une montagne de procès sur le scandale des abus sexuels. Laurie Nassar, l'un des médecins de l'organisation, a été condamné en janvier dernier à 125 ans de prison après avoir plaidé coupable pour agression sexuelle contre 10 filles. L'an dernier, Steve Penny, ancien directeur général du comité américain de gymnastique, a démissionné et a été inculpé pour délit de falsification de preuves dans le cadre d'une enquête sur Nassar. Et puisque nous sommes aux États-Unis, on y reste pour parler de basket avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Golden State et Cleveland, 129 à 105. Denver et Orlando, 124 à 118. Washington et Atlanta, 131 à 117. Oklahoma City et Brooklyn, 114 à 112. Toronto et Philadelphie, 113 à 102. Memphis et LA Clippers, 96 à 86.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. International Crisis Group tire la sonnette d'alarme sur le sort des jeunes des régions sahéliennes du Tchad qui émigrent vers le nord du pays ou la Libye. Beaucoup sont en quête d'opportunités économiques, note International Crisis Group, en soulignant cependant que certains rejoignent les groupes armés du fait des sentiments d'injustice envers N'Djamena. En réaction, les autorités tchadiennes intensifient les contrôles dans les régions concernées. Timothée Donangmaï a joint dans la capitale tchadienne Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
Cette hémorragie des jeunes risque de continuer parce que la cause est toujours là. Le Tchad n'a pas d'abord d'emploi, ça c'est clair pour tout le pays. Les jeunes sont désœuvrés, après le bac ils n'ont rien à faire. Et même ceux qui ont étudié à l'extérieur, qui entrent, ils n'ont pas d'emploi. Et ils sont complètement désœuvrés. Pour ceux de la zone sahélienne, il y a une espèce de harcèlement de la part des responsables politiques de la région qui systématiquement pensent que les jeunes du Karen et du Bahr el-Ghazal vont rejoindre leurs frères, disons, qui se trouvent à l'extrême nord du pays et qui étaient à l'origine de la création de certains mouvements armés.
Est-ce que cette inquiétude des autorités n'est pas légitime quand on sait que des groupes rebelles tchadiens opèrent dans le sud de la Libye?
Tout à fait, mais figurez-vous qu'un gouvernement responsable, en principe, il devait adopter une certaine politique qui puisse lui permettre de soutenir ces jeunes-là, de les occuper et de développer ces jeunes-là afin de fixer les jeunes sur place, leur faire oublier leur misère, leur infortune, leurs conditions. Or, le gouvernement, non seulement il n'essaye pas d'étudier le problème à fond afin de juguler cette hémorragie à la base, c'est-à-dire en s'attaquant aux vraies causes, parce que l'immigration, c'est les effets. Mais la vraie cause, c'est la misère. C'est la misère, c'est le harcèlement des forces de l'ordre dans ces régions.
Ces forces de l'ordre disent intervenir dans l'extrême nord contre des orpailleurs illégaux. Qu'en est-il?
Contre des orpailleurs illégaux, je ne pense pas. Sans vouloir épouser la thèse défendue par les uns et les autres, nous avons pensé que cette opération militaire était destinée à contrôler l'or du Tibesti, en fait. C'est-à-dire que nous avons déjà un précédent. Le précédent, c'est le cas de l'or apparu à fleur de terre au Bata. Vous savez que la famille présidentielle s'est empressée d'aller bloquer la zone, de la considérer comme une zone militaire, de faire venir leurs parents, les habillant comme des militaires, et puis de les faire entrer dans la zone afin qu'ils exploitent l'or à leur profit. Et ils se sont mis, dans un premier temps, à chasser les autochtones, dans un deuxième temps, à ceux qui entrent clandestinement, de les tuer carrément. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont mortes au Bata, simplement parce qu'il cherchait à exploiter de façon artisanale cette tour-là.
C'était Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Le premier ministre gabonais, qui a rencontré mardi son président en convalescence à Rabat au Maroc, a déclaré qu'Ali Bongo, hospitalisé depuis près de 2 mois, se porte, et je cite, « plutôt bien ». Mais joint à Libreville par Irénée Herman Ongbo, Auguste Essono, professeur de sciences politiques, a parlé de manœuvre des autorités alors que de nombreux Gabonais se posent des questions sur l'état de santé de leur président.
Le peuple pense qu'on ne lui dit pas la vérité. Le peuple pense qu'il y a une machine qui est mise en place pour organiser un énorme mensonge d'État depuis le 24 octobre. Et pour cette simple raison, la parole du Premier ministre ne peut pas avoir un écho favorable au sein des populations, de mon point de vue.
À quoi alors s'attendent les Gabonais? N'est-ce pas des informations concernant l'état de santé de leur président?
Les Gabonais attendent la vérité. Mais lorsqu'un peuple a le sentiment qu'on ne lui dit pas la vérité, bien évidemment, ce qui passe pour être un mensonge d'État ne peut pas apaiser les inquiétudes, puisque le peuple est convaincu qu'on lui ment.
Mais à votre avis, quel intérêt est-ce que les autorités gabonaises ont à créer un flou autour de l'état de santé du chef de l'État?
Les autorités gabonaises veulent conserver le pouvoir. Parce qu'au sein de la majorité, l'on reste à peu près persuadé que si une transition est organisée, ça veut dire sur fond, après avoir constaté, si tel était le cas, la vacance de pouvoir, si ce que demande la Constitution est respecté, la présidente du Sénat sera installée comme présidente par intérim de la République, elle organisera les élections et la majorité étant persuadée qu'elle n'est pas en mesure de gagner cette élection, et puisqu'elle veut conserver le pouvoir, alors elle fait tout pour gagner du temps afin de mettre en place des mécanismes qui vont l'aider à tricher, à faire semblant d'organiser une transition tout en tirant les ficelles de sorte à ce que le pouvoir soit conservé.
À vous entendre, vous ne croyez pas aux propos du Premier ministre, c'est bien cela?
Si je suis un citoyen de ce pays, avant d'être un ancien chercheur, en tant que citoyen, je pense que le Premier ministre a menti. Qu'est-ce qui me le fait dire? Lorsqu'on regarde les photographies et les vidéos qui sont diffusées depuis à peu près 2 à 3 jours, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte de la grossièreté de ces montages et pour se rendre compte justement de la manipulation qu'il y a derrière. Les images ne sont pas nettes, les images manquent d'authenticité, cruellement d'authenticité. Pas besoin d'être un expert pour le dire. À partir de ce moment, je ne peux pas accorder foi en tant que citoyen de ce pays à ce qu'affirme le Premier ministre.
Le professeur Auguste Essonneau, joint à Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Du 3 au 5 décembre, s'est tenue à Kigali, au Rwanda, la conférence économique africaine 2018, intitulée Intégration régionale et continentale au service du développement de l'Afrique. Une conférence organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, et la Banque africaine de développement, la BAD. Ekia Badou, adjoint à Kigali, Amata Diabaté, économiste du PNUD basé au Niger et qui opère également au Burkina Faso, elle nous explique ici les défis à relever dans le cadre de l'intégration économique.
Ce thème n'est pas nouveau. Les questions qui ont été discutées ne sont pas nouvelles. Cette conférence des économistes africains donne l'opportunité à des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs, de faire un travail de recherche sur la thématique choisie et cette fois-ci, c'était la thématique de l'intégration africaine.
Est-ce que vous pouvez nous parler des défis de l'intégration économique, par exemple?
Quand on parle d'intégration, c'est vraiment d'intégration économique dont on parle. Il faut qu'on puisse échanger ensemble pour pouvoir croître ensemble. En termes de défis, je parlerai d'abord du défi de la volonté politique. Cette volonté politique de nos États est exprimée en théorie dans les traités qui sont signés partout en Afrique. On a la CDAO, on a le COMESA, on a la CEAC. Tous ces traités qui parlent théoriquement de l'élargissement des marchés, de la libre circulation des hommes et des biens, mais en pratique, ce n'est pas effectif. Et tant que ce n'est pas effectif, on ne peut pas parler d'intégration africaine. Le deuxième défi, qui est aussi très important, c'est la faible transformation de nos produits. Le troisième défi, c'est que jusqu'à présent, parce que les ressources internationales peuvent bien venir chez nous et promouvoir cette transformation de l'économie, qui est en général du fait du manque de ressources. Et c'est ça le problème crucial de l'intégration africaine.
Alors, on sait que le PNUD travaille en étroite collaboration dans les différents pays où elle opère avec les collectivités locales ou les gouvernements. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre rôle, l'appui que vous êtes en tant qu'économiste au sein de ces pays dans la mise en œuvre des accords signés dans le cadre de l'intégration?
Le programme des Nations Unies pour le développement est une des agences des Nations Unies qui est celle qui est effectivement centrée sur le développement en général. Tous les jeunes encore, je répète, les jeunes et les femmes qui sont les populations oubliées puissent se développer. Nous conseillons les pays dans le cadre de la formulation de leur plan de développement à court, moyen et long terme Nous nous assurons que les 10 programmes sont bien formulés, les politiques qui sont favorisées sont bien formulées pour qu'on y voit la réalisation. Pour qu'on se base sur les valeurs culturelles du pays, pour faire la promotion de la femme, pour valoriser le travail de la femme, pour augmenter les droits de la femme. Dans le petit village du Niger, on va donner plus d'importance au travail de la femme, à l'éducation de la fille, pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse être productive et pour qu'elle puisse ajouter au développement du pays. Et à son propre développement d'abord, ensuite au développement du pays.
L'économiste du PNUD, Amata Diabaté.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Américains ont rendu hommage hier à leur ancien président George Herbert Walker Bush, décédé vendredi dernier au Texas à l'âge de 94 ans. Le président Donald Trump et son épouse Melania Trump, ainsi que 4 de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, accompagnés de leurs femmes, et aussi plusieurs dignitaires étrangers, étaient hier parmi les 3400 personnes assistant aux obsèques d'État à la cathédrale nationale de Washington. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Au premier rang à la cathédrale, on pouvait voir, outre le couple Trump, les anciens présidents Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Contrairement à la tradition, M. Trump n'a pas pris la parole, conformément, dit-on, aux vœux de George Herbert Walker Bush. Après les discours de l'historien John Misham, de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney et d'Alan Simpson, un ancien sénateur républicain, le fils du défunt, l'ex-président George W. Bush, a prononcé une oraison funèbre teintée d'humour, conclue par des larmes, mettant en exergue les qualités de grand leader qu'incarnait son père. Il nous a montré ce que cela signifie d'être président. Un président qui a servi avec intégrité, dirigé avec courage et agi avec amour dans son cœur pour les citoyens de notre pays. Pour George W. Bush, l'histoire retiendra que George Herbert Walker Bush a été un grand président, un diplomate exceptionnellement talentueux, un commandant en chef aux réalisations formidables et un gentleman qui a été un exemple de dignité et d'honneur à la tête des États-Unis. Parlant encore de son père, M. Bush a dit qu'il va maintenant retrouver sa fille Robin et sa femme Barbara, mortes avant lui. Tu vas nous manquer. Ton grand sens de la décence, ta sincérité et ta grandeur d'âme resteront à jamais avec nous. La chancelière allemande Angela Merkel, le prince Charles du Royaume-Uni, le roi Abdallah de Jordanie et le président polonais Andrzej Duda faisaient également partie de ceux qui ont assisté à la cérémonie à la cathédrale nationale de Washington. Le cercueil du 41e président des États-Unis, couvert du drapeau américain, a été ensuite transporté à la base militaire d'Andrews, près de Washington, pour être ramené à bord de l'avion présidentiel à Houston, au Texas, pour un dernier service aujourd'hui. Il doit être inhumé à la bibliothèque George Herbert Walker Bush, à l'université A&M, aux côtés de sa femme de 73 ans, Barbara, et de leur fille Robin, morte d'une leucémie en 1953, lorsqu'elle n'avait que 3 ans.
Raissa Girondin avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la Confédération africaine de football a un mois pour faire un nouvel appel à candidature. Selon le président de la CAF, le Cameroun organisera désormais la CAN en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Comment expliquer son incapacité à construire dans les délais les infrastructures pour abriter cette grande messe sportive? Quelles seront les conséquences pour la CAN 2019 qui va l'organiser? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel.
Sorcier Bantou, Benji Matenge.
Donnez-moi un peu de boulot.
Stéphane et Saka.
Moi aussi je veux travailler.
Bon bon essor.
Trouvez-moi un peu de boulot. Moi aussi je veux travailler.
Papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes. J'ai même fait des formations. Mais je n'ai pas du boulot. Ah papa. Je suis toujours au chômage. Président Bamba, papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes, j'ai même fait des formations. Mais je n'ai pas du boulot.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.